Bonjour frères et sœurs, un très joyeux sabbat à vous tous. Il y a un proverbe ancien qui dit « Celui qui ne sait pas et ne sait pas qu'il ne sait pas, il est insensé, fuyez-le. Celui qui sait pas qu'il ne sait pas et sait qu'il ne sait pas, il est simple, enseignez-le. Celui qui sait mais ne sait pas qu'il sait, il dort, réveillez-le. Et celui qui sait, et sait qu'il sait, il est sage. Suivez-le. » Dans quelle catégorie nous trouvons-nous dans ce proverbe? Eh bien, la réponse dépend de quoi on parle, bien évidemment. Il existe des questions dans la vie qui ne sont pas très importantes, comment réparer quelque chose, comment fabriquer quelque chose. Mais il existe aussi des questions cruciales à notre vie, à notre avenir, et aussi à notre éternité. La Bible, la parole de Dieu, est un livre à un but particulier. Ce n'est pas un livre d'histoire, à proprement parler, bien qu'il y ait de l'histoire dedans. Ce n'est pas un livre de biographie non plus, bien qu'il y ait de la biographie dedans. Ce n'est pas un livre de poésie ou de science ou de métaphysique, bien que tout cela s'y trouve également. C'est un livre qui a un but, qui est d'expliquer le plan de Dieu pour l'humanité et comment nous pouvons faire partie de son plan et recevoir ce que Dieu veut nous donner dans sa famille. En racontant l'histoire de l'humanité, donc, la Bible ne raconte que des points saillants, ce que nous devons savoir pour comprendre le plan de Dieu. Nous voulons, comme dit le proverbe, savoir et savoir que nous savons comment faire pour accomplir le plan de Dieu et pour recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Tout au début de la Bible, dans les premiers chapitres, il y a l'histoire de deux arbres qui se trouvaient dans le jardin d'Éden. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Nous comprenons que l'arbre de vie représentait l'accès au Saint-Esprit, le début de ce que nous appelons aujourd'hui la vie chrétienne. Si Adam et Ève avaient pris de cet arbre-là, ils auraient commencé le processus chrétien, du moins à leur échelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal portait le fruit défendu aux hommes par Dieu. Genèse chapitre 2 raconte cette histoire. Genèse chapitre 2. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle cette histoire se trouve tout de suite au début de la Bible. Parce que ça, cette histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie nous explique pourquoi nous vivons dans le monde comme nous le connaissons aujourd'hui. Explique le pourquoi de tout ce qui allait suivre dans l'histoire humaine. Genèse chapitre 2. Verset 8. « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. » Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'avaient point honte. Puis le serpent entre dans l'histoire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'histoire de l'humanité commence, sur le mauvais pied, on va dire. Le problème était, au fond, qu'ils n'ont pas cru à Dieu. Ils ont préféré croire au serpent qui leur a dit de se fier à leur propre jugement, de prendre leurs propres décisions, qu'ils savaient mieux choisir que ce que Dieu pouvait leur dire. Adam et Ève, nos premiers parents, ont refusé de se laisser guider par Dieu. Ils préféraient se guider eux-mêmes. Ils ont préféré décider pour eux-mêmes comment ils allaient vivre leur vie, qui pouvait déterminer la meilleure façon de choisir. Depuis ce moment-là, tous les êtres humains ont suivi, sauf Jésus-Christ, le même chemin. Nous avons tous suivi le même chemin. Au moment de notre conversion, au moment où nous acceptons l'appel de Dieu, nous déclarons que nous allons nous laisser guider par Dieu. Mais c'est une décision que nous devons renouveler tous les jours de la vie. Chaque jour, nous devons décider, oui, je vais résister à la tentation de me guider moi-même, et je vais continuer de laisser Dieu me guider. La question que j'aimerais nous poser aujourd'hui, c'est est-ce que nous nous laissons toujours guider par Dieu? Et jusqu'à quel point est-ce que nous nous laissons guider par Dieu? Proverbes chapitre 14, verset 12. Proverbes chapitre 14, verset 12. C'est un verset qui est répété, même dans les Proverbes. Vous trouvez la même chose dans chapitre 16, verset 25 également. Mais ici, dans Proverbes chapitre 14, verset 12, nous lisons, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Nous pensons, nous croyons naturellement savoir ce qui est bon pour nous. Nous croyons pouvoir distinguer, nous croyons pouvoir prendre de bonnes décisions, faire de bons choix. Nous pensons pouvoir le faire, mais en fin de compte, nous ne savons pas le faire. L'homme naturel ne sait pas se guider dans le domaine spirituel de façon adéquate. Adam et Ève ont dû apprendre cette leçon par l'expérience, et leur expérience était dure et pénible. Et depuis lors, les êtres humains en général apprennent la même leçon dans la difficulté et dans la douleur. Proverbes chapitre 3, verset 5, s'il vous plaît, nous donne un conseil excellent et résume bien le sujet que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Proverbes chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est ça que nous sommes toujours tentés de faire, de nous appuyer sur notre sagesse et pas sur la sagesse de l'Éternel. Reconnais-le, Dieu, dans toutes tes voies et il aplanira nos sentiers, tes sentiers. Il va aplanir la route que nous devons parcourir, par laquelle nous devons voyager dans cette vie. C'est marqué au verset 5, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. » Mais qu'est-ce que ça veut dire bibliquement? Son cœur, dans la Bible, ça veut dire quoi? Eh bien, nous pouvons prendre plusieurs exemples pour montrer que ça veut dire plusieurs choses. Cela inclut plusieurs domaines de la vie. Regardons rapidement quelques exemples dans les Proverbes. Proverbes chapitre 14, puisqu'il est question dans Proverbes chapitre 3 de nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. Qu'est-ce que le cœur veut dire dans le livre des Proverbes? Proverbes chapitre 14, verset 10. Le cœur connaît ses propres chagrins et un étranger ne saurait partager sa joie. Donc le cœur ici parle d'émotion. C'est le siège des émotions, le cœur. Le verset 13 dit « Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. » Il est question d'émotion. Et ce ne sont pas les seuls exemples dans les proverbes que l'on pourrait citer pour dire cela. Mais il y a plus. Le cœur n'est pas simplement le siège des émotions, il y a autre chose impliquée également. Proverbe chapitre 10, verset 8. Proverbe chapitre 10, verset 8. Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Sage de cœur reçoit les préceptes, l'instruction. Donc, il y a une question de l'intellect quand nous parlons du cœur. C'est notre façon de réfléchir et de penser. Cela aussi est inclus dans l'idée du cœur. Chapitre 15, toujours dans les Proverbes. Proverbe chapitre 15, verset 14. Proverbe chapitre 15, verset 14. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Un cœur intelligent cherche la science. Donc, là, nous pouvons résumer ça comme un discernement. Notre discernement fait partie de notre cœur, notre fort intérieur. La capacité de discerner ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est intelligent et ce qui n'est pas intelligent, ce qui est sage et ce qui n'est pas sage. Chapitre 15, toujours verset 28. Proverbe chapitre 15, verset 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répond des méchancetés. Le cœur implique donc la capacité de réfléchir. La réflexion fait partie de notre cœur spirituel également. Et dernière chose que nous pouvons voir, et nous faisons ceci assez rapidement, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire là-dessus, mais dans Proverbe chapitre 5, verset 12, nous lisons que tu nous dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction, ayant appris par des mauvaises décisions, et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ?» Un cœur, notre cœur spirituel, peut dédaigner la réprimande ou pas. Il est question de volonté. La volonté d'accepter une correction ou la volonté de refuser une correction, une rectification de tir. Cela aussi, ça fait partie de ce que fait notre cœur. Notre cœur implique aussi la volonté. Nous avons donc vu que quand il est question du cœur et nous devons nous confier à l'Éternel de tout notre cœur, ça veut dire, avec nos émotions, avec notre intellect, avec notre compréhension, notre discernement, nos réflexions et notre volonté. Toutes ces choses, tous ces éléments sont impliqués dans notre cœur. Et nous devons nous confier en l'Éternel de tous ces différents domaines si nous voulons réussir dans la vie. Pourquoi nous confier à Dieu? Pourquoi est-ce tellement important? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas simplement décider pour nous-mêmes, voir ce que nous voyons, réfléchir à ce que l'on puisse voir, et puis prendre la bonne décision? Ésaïe, chapitre 55, nous explique pourquoi, en partie du moins. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. C'est Dieu qui parle ici, à travers la bouche d'Ésaïe, et il dit... « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » La vue de Dieu, la compréhension de Dieu est plus élevée que le nôtre. Quand nous montons sur une montagne ou sur une colline, on arrive à voir plus loin. La hauteur nous permet d'avoir une vue d'ensemble que nous ne pouvons pas avoir quand nous sommes à une altitude plus basse. Eh bien, Dieu, lui, il voit du haut d'une grande montagne spirituelle. Il voit des choses devant nous que nous sommes incapables de voir de par notre perspective d'être humain. Dieu voit beaucoup plus loin que nous. Et à travers la Bible, Dieu nous donne un aperçu de ce qu'il voit. Il nous avertit contre les dangers qu'il voit devant nous et il nous encourage à aller dans le sens qui va nous apporter finalement des bénédictions que nous ne pouvons qu'entrevoir pour le moment. Nous comprenons leur existence parce que Dieu nous le dit. Mais de nos propres yeux, nous ne pourrons pas les voir. Nous ne pouvons pas voir ces choses. Mais Dieu voit plus loin que nous. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. L'apôtre Paul a dit quelque chose de semblable dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, verset 33. Romains chapitre 11, verset 33 et 34. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Un Dieu créateur qui peut former les cieux et la terre, qui peut créer tout ce que nous pouvons apercevoir autour de nous, manifestement, il voit plus loin que nous. Il est plus capable que nous. Il est capable de prédire ce qui va arriver si nous adoptons telle ou telle décision, tel ou tel chemin dans la vie. Et il nous avertit. Il nous avertit contre des dangers et il nous encourage à aller dans le sens qui va nous apporter de bons fruits en fin de parcours. Pas toujours immédiatement, mais en fin de compte. Et c'est ça qui compte le plus. Proverbe chapitre 3, revenons dans ce livre de sagesse. Proverbe chapitre 3 nous dit que quand nous suivons la voie de la sagesse, quand nous nous laissons guider par Dieu, en d'autres termes, la vie n'est pas toujours facile, mais elle est moins difficile que si nous suivons ce que notre cœur nous indique. Le Proverbe chapitre 3, verset 10, le début du chapitre encourage le garçon, le fils à qui le père écrit ici, d'écouter et d'apprendre la sagesse. Et un des résultats se trouve au verset 10. « Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » Vous aurez l'abondance, même matérielle. Verset 16, « Dans sa droite, de la sagesse, est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. » Verset 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. » Quand nous suivons la sagesse de Dieu, nous cherchons à être guidés par Dieu dans la vie de tous les jours, Dieu nous bénit abondamment. Il nous bénit abondamment. C'est sa sagesse qu'il nous faut. Il ne suffit pas d'être intelligent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont très intelligents avec de multiples diplômes universitaires, mais qui ne sont pas heureux dans la vie et qui s'égarent complètement quand il est question de reconnaître l'existence de Dieu. L'intellect humain tout seul n'est pas suffisant. Je me souviens d'avoir lu une citation de Max Born. C'était un physicien allemand qui est mort en 1970. Il était un ami proche d'Albert Einstein, était un collègue de Max Planck, Otto Hahn, les physiciens nucléaires. Monsieur Born était un des grands esprits du XXe siècle, un génie. Dans une interview à la télévision allemande avant sa mort, Born a dit ceci, et c'est ce commentaire qui m'avait interpellé. « Je serais plus heureux si nous avions des scientifiques avec moins de cervelle et plus de sagesse. » Lui, il a reconnu que l'intelligence n'est pas la même chose que la sagesse. Et on peut être très intelligent sur le plan humain et pratiquer ou marcher dans la folie, être fou. C'est pour cela que nous devons nous confier dans la sagesse de l'Éternel et non pas dans notre propre sagesse. Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Nous encourage, dans la même ligne de ce que nous avons vu dans les Proverbes. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, un trône droit comme le soleil à son midi. Recommande ton sort à l'Éternel. Nous devons nous laisser guider par Dieu. Et nous sommes d'accord avec cela de façon intellectuelle. Personne qui écoute ce sermon aujourd'hui ne va dire « Non, je ne suis pas d'accord, il ne faut pas se laisser guider par l'Éternel. » Nous sommes d'accord avec cela. Mais le problème, c'est que être d'accord dans l'esprit ne se traduit pas toujours par l'acte qu'il faudrait, par le geste de chercher activement et de se plier devant la sagesse de Dieu. Jérémie chapitre 9 également, s'il vous plaît, à ce sujet, Jérémie 9, verset 23, Jérémie chapitre 9, verset 23. Même quand nous avons la sagesse, et si nous sommes à l'église de Dieu, nous sommes bénis par la compréhension de la sagesse de Dieu. Dieu ouvre notre compréhension à sa parole et à sa sagesse. Ça, c'est une grande bénédiction. Et c'est en particulier, c'est vrai, pour nos jeunes qui ont la possibilité, en grandissant dans l'Église, d'éviter beaucoup d'erreurs qui sont commises dans le monde par ignorance. Vous, les jeunes dans l'Église, vous êtes très bénis de pouvoir avoir un fondement solide pour votre vie. Dieu vous a beaucoup béni là-dedans, de cette manière. Et dans Jérémie chapitre 9, verset 23, nous lisons « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. » Et ça, c'est très fréquemment le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? Les êtres humains intelligents sont fiers d'être intelligents. Ceux qui sont forts sont fiers d'être forts, comme si c'est par leur propre activité ou par leur responsabilité qu'ils ont reçu ces dons, qui sont en fait rien d'autre que des dons de Dieu. Les riches se vantent de leur richesse. Je trouve que c'est une défense contre tout ce qui peut leur arriver dans la vie. Et Dieu dit, ne vous glorifiez pas de tout cela, mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence que nous avons, ou la force physique que nous avons. C'est par la bénédiction de Dieu que nous pouvons accumuler des richesses que nous avons dans la vie. Mais Dieu dit, ne vous glorifiez pas de tout cela. Si vous avez ces choses-là, c'est moi qui vous les ai données. Si vous allez vous glorifier, glorifiez-vous, soyez reconnaissant de pouvoir me connaître et d'avoir une relation avec moi. Je le constate dans l'Église de par le monde, en fait. Nous avons beaucoup de jeunes gens très capables dans l'Église. Ils ont été bénis par l'éducation qui leur a été donnée par leurs parents. Dieu a béni les membres de l'Église en leur donnant des enfants capables et intelligents. Ensuite, ils ont appris dès leur jeunesse les principes de la loi de Dieu, de travailler fort, d'être honnête. Le respect pour l'autorité, le respect des règles. Mais il faut toujours faire attention, quand nous réussissons bien dans la vie, de donner la gloire à Dieu. Et d'éviter le piège de se fier, de se confier en sa propre sagesse ou ses propres capacités. Nous devons reconnaître la sagesse de Dieu et agir sur ce que sa sagesse nous suggère de faire. Winston Churchill, le premier ministre anglais, a dit ceci à propos de le fait de reconnaître la sagesse, mais aussi de savoir agir sur la sagesse. Un manque de prévoyance, une réticence à agir lorsque l'action serait simple et efficace, un manque de clarté de pensée, la confusion de conseils, jusqu'à ce que la situation d'urgence éclate, jusqu'à ce que l'autodéfense frappe son gong discordant. Ce sont là les caractéristiques qui constituent la répétition sans fin de l'histoire. Beaucoup de sagesse dans ce qu'il a dit là. Nous manquons de sagesse, nous ne prévoyons pas ce qui peut arriver, et nous passons à côté du moment quand, si on avait agi à ce moment-là, tout serait résolu rapidement et sans difficulté. Nous attendons que la crise éclate, et là c'est trop tard. Et d'après M. Churchill, c'est ça qui explique le cycle qui se répète dans l'histoire humaine. Parce que nous passons à côté de la sagesse et nous refusons d'agir sur cette sagesse jusqu'à ce qu'il est trop tard. Bibliquement alors, posons-nous la question, comment peut-on se laisser guider par Dieu? Comment peut-on vraiment concrètement profiter de la sagesse de Dieu pour nous confier pleinement en l'Éternel? Quelques points que la Bible nous donne. Premièrement, il faut vraiment vouloir être guidé par Dieu et pas simplement faire semblant ou pas que ça reste simplement au niveau d'une pensée. C'est une bonne idée de se laisser guider par Dieu. Je vais garder cette bonne idée. Mais si on passe pas à l'acte, si on va pas plus loin que ça, on va pas profiter de sa sagesse. Il faut vraiment vouloir être guidé par Dieu. Prenons un exemple dans la Bible de quelqu'un qui prétendait vouloir être guidé par Dieu, mais qui ne le voulait pas vraiment. Deux Chroniques, chapitre 18. Deux Chroniques, chapitre 18. Deux Chroniques, chapitre 18, verset 1. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Il s'allia par mariage avec Achab. Grosse erreur. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Achab à Samarie, et Achab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Bonne idée. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Ça devient clair dans la suite de l'histoire ici, que ces prophètes savaient ce que le roi voulait entendre et lui ont dit exactement ce qu'il voulait entendre. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que de mal. C'est Michée, fils de Jimla, et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Non, il faut respecter le prophète de l'Éternel, Dieu d'Israël. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la pièce à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer, et dit ainsi par l'Éternel, « Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, « Monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, « Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. » Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Ne dites pas, ne cherchez pas vraiment à connaître vraiment la volonté de Dieu. Fais semblant de chercher ça et dis ce que le roi veut entendre. Ça, c'est tout ce qu'il y a d'humain, n'est-ce pas? Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. La bonne réponse à cette situation. Il cherchait, Michée, vraiment à être guidé par Dieu. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, très certainement d'un ton moqueur, c'est comme ça que je l'imagine du moins, « Mais montez, vous aurez du succès, ils seront livrés entre tes mains. C'est ce que tu veux entendre, n'est-ce pas ?» Et le roi lui dit, il ne pouvait pas passer à côté du fait qu'il n'était pas sérieux dans ce qu'il a dit là. C'était la moquerie, en fait. Le roi lui dit, « Combien de fois me faudrait-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Alors Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Et le roi d'Israël, qui venait juste de lui dire qu'il voulait entendre la vérité, il se fâche. Ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. parce qu'ils ne cherchaient pas vraiment à connaître la volonté et la sagesse de Dieu. Et Michée continue avec sa prophétie, et quand on regarde ce qui s'est passé finalement à la fin du chapitre, on voit que les rois ont été battus dans cette bataille. Il y a eu de sérieuses conséquences, parce qu'ils faisaient semblant de vouloir connaître la volonté et la sagesse de Dieu, mais ils n'ont pas vraiment voulu le faire. Nous devons faire attention, nous ne serions pas peut-être aussi hypocrites dans la chose, mais il est possible, même pour nous en tant qu'êtres humains, de vouloir vraiment une chose tellement que nous faisons semblant de chercher la volonté de Dieu, mais vraiment ce que nous voulons, c'est de chercher notre volonté, ou de faire conformer la sagesse de Dieu à ce qui nous semble être sagesse chez nous. Les conséquences étaient désastreuses pour ces deux rois, qui ont fait semblant de chercher la sagesse de Dieu, mais qui vraiment ne voulaient pas la connaître. Ils voulaient que la volonté de Dieu soit leur volonté, plutôt que le contraire. Donc ça, c'est un premier point. Si nous voulons vraiment nous laisser guider par Dieu, nous devons vraiment sincèrement vouloir être guidés par Dieu. Et pas simplement avoir cette bonne idée derrière la tête, mais continuer à agir comme si nous pouvions très bien distinguer ce qu'il faut faire nous-mêmes. Et une fois que nous avons établi la volonté, nous avons la volonté claire d'être guidés par Dieu, qu'est-ce que nous devons faire par la suite? Bien, probablement la chose la plus importante qu'on pourrait faire après cela, quand on passe à l'acte, c'est de bien connaître la parole de Dieu. Puisque Dieu nous révèle sa pensée et sa sagesse dans la Bible, dans ce livre qui est écrit pour nous. Matthieu chapitre 4, passage que vous avez probablement, que vous connaissez par cœur, je suppose. Jésus a répondu à Satan qui le tentait, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas seulement une partie, vraiment toute parole. Toutes les parties de la Bible ont une importance pour nous. C'est vrai que nous allons probablement passer plus de temps dans certaines parties de la Bible que d'autres, mais nous devrions être à même de connaître toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Même les parties qui sont un peu plus difficiles pour nous. Nous ne devrions pas avoir peur de les lire et de les étudier, de chercher les réponses à nos questions, de chercher à comprendre pourquoi est-ce que cette partie de la Bible là est là et qu'est-ce que j'ai à tirer de cette partie de la parole de Dieu. Bien connaître la Bible. Nous le répétons dans presque chaque sermon, chaque sermonnette, chaque article que nous publions, il est très important de connaître la parole de Dieu. Mais concrètement, ça veut dire d'y lire et d'y étudier tous les jours. Et plus que cela, quand nous sommes confrontés à une question dans la vie, une question de la vie pratique, eh bien, nous devrions aller dans la parole de Dieu pour chercher des conseils. Pour chercher conseils. On est devant une question, même des questions purement physiques. Quel métier est-ce que je dois prendre? Comment est-ce que je dois faire pour mon éducation? Où est-ce que je dois m'installer? Il y a des choses dans la Bible qui nous expliquent des principes qui vont nous aider, même dans des questions d'ordre pratique et simple comme cela, qui restent sur le plan humain uniquement. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je discutais avec mon père récemment, qui a plus de 60 ans dans le ministère maintenant. On compare parfois comment l'Église était quand lui il est entré dans l'Église dans les années 40 et 50, et aujourd'hui. Et d'après mon père, il y a des choses que nous arrivons à mieux faire maintenant que tout au début. Par exemple, il a dit que nous arrivons à défendre et à expliquer nos croyances de façon plus complète maintenant que ce que nous pouvions, la plupart des gens pouvaient faire à l'époque. Ils étaient toujours dans l'apprentissage, alors que nous avons maintenant, après ces décennies, des explications claires pour expliquer et défendre notre point de vue. Ça, il a dit, nous faisons mieux. Mais il a dit une chose, d'après lui, que nous ne faisons pas aussi bien aujourd'hui que tout au début. Et c'est un commentaire que j'ai jamais oublié. Il m'a dit, à l'époque, on allait tout de suite dans la Bible pour chercher les réponses aux questions de la vie. Et aujourd'hui, il voit moins cette tendance dans l'Église de Dieu. Nous avons tendance à consulter les gens, aller faire des chercher sur Internet ou autre chose. On cherche la sagesse, Mais on ne va pas tout de suite, toujours, chercher d'abord la sagesse de Dieu. Et pour lui, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et je serai de son avis. Nous devrions avoir l'habitude de chercher les réponses aux questions de la vie dans la parole de Dieu et d'y aller rapidement. D'y aller rapidement. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Étudier, méditer la Bible nous aide à mieux nous connaître nous-mêmes, à distinguer nos motivations. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je pense faire bien dans tel ou tel domaine, alors qu'en réalité ce n'est pas vrai? Est-ce qu'il y a des points faibles que j'ignore ou que j'accepte parce que je suis comme ça? La Bible nous aide à sonder le cœur et à distinguer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien en nous. Cela nous permet d'être guidés par la sagesse de Dieu. Dieu qui veut que nous nous améliorions, non pas que nous restions comme nous sommes. Il veut voir du progrès. La parole de Dieu est vivante et efficace. Comment est-ce qu'elle est vivante? Ça veut dire qu'elle peut répondre à des situations changeantes dans la vie. Elle n'est pas figée, tout comme nos vies ne sont pas figées. Nous évoluons, il y a des changements, les situations, les circonstances changent. Eh bien, la Bible est capable de répondre à toutes ces différentes circonstances, à nous donner la sagesse de Dieu pour nous aider à savoir comment nous devons nous comporter. Entre autres choses, en particulier pour les jeunes, mais même pour les plus âgés, nous devrions bien connaître le livre des Proverbes, qui est un livre de sagesse extrêmement pratique pour comprendre la sagesse de l'Éternel. Lisons le début de Proverbes, Proverbe 1, verset 1. Proverbe chapitre 1, verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et leur sentence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ce livre a été écrit en particulier pour les jeunes. Et j'espère que vous autres parents, si vous avez encore de jeunes enfants à la maison, j'espère que vous leur inculquez les proverbes. C'est la meilleure éducation de base que vous puissiez donner à vos enfants. Expliquez-leur la sagesse de Dieu qui vise les jeunes. Mais nous ne devons pas nous arrêter à lire les proverbes quand nous atteignons l'âge adulte. Bien au contraire, nous devrions bien connaître la sagesse des proverbes, qui sont des conseils que Dieu nous donne. Parents, c'est quand la dernière fois que vous avez enseigné un proverbe du livre des proverbes à vos enfants? C'est quand la dernière fois que vous leur avez fait mémoriser quelques proverbes? Ce sont des proverbes qui sont la base de l'éducation qu'on devrait donner à nos enfants. C'est quelque chose de très important. Nous devons bien en profiter. Si nous voulons nous laisser guider par Dieu, nous devons connaître, bien connaître, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons bien connaître la Bible. Et pour les jeunes en particulier, ça veut dire les proverbes, mais pour les adultes également. Nous ne pouvons pas vivre par toute parole qui sort de la bouche de Dieu si nous ne connaissons pas toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est logique. Donc ça, c'est un deuxième conseil que la Bible nous donne. Bien connaître la parole de Dieu, bien connaître la Bible. Troisième conseil que la Bible nous donne, c'est de chercher des conseils sages, de gens sages, et des gens sages, le plus souvent, ce sont des gens qui connaissent la Bible et qui basent leurs conseils sur la parole de Dieu. Proverbe chapitre 13, Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe chapitre 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Quand nous passons du temps avec ceux qui vivent en conformité avec la Bible, ceux qui s'intéressent à la Bible, ceux qui modèlent leur vie sur le modèle de la Bible que nous avons, eh bien, nous allons leur ressembler. Et de la même manière, si nous fréquentons les gens farfelus, eh bien, nous allons devenir comme cela également. Nous ressemblons aux gens avec qui nous passons du temps, les gens que nous fréquentons. Tournons la page, Proverbes chapitre 14. Proverbes 14, verset 16. Le sage a de la retenue, ou la version synodale le traduit, le sage craint et se détourne du mal. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Il est plein de sécurité. Moi, pas de problème, je suis en sécurité, je sais ce qu'il m'en faut savoir, j'ai pas besoin de savoir autre chose. Mais le sage craint. Il prévoit qu'il peut arriver dans la vie de choses pénibles, et il veut mettre toutes les chances de son côté. Même quand nous vivons nos vies en conformité avec la loi et la voie de Dieu, nous allons avoir des épreuves dans la vie, ça va de soi, ça fait partie de cette vie physique que nous avons. Mais nous pouvons éviter bien des difficultés, nous pouvons éviter bien des problèmes. Si nous cherchons conseil auprès de Dieu, d'abord dans sa parole, mais aussi auprès de personnes sages qui ont de l'expérience et qui peut nous aider à mieux connaître la voie que nous devons suivre. Pour les enfants, ça veut dire leurs parents, tout d'abord. Et pour les parents, même en âge adulte, si vous avez des grands-parents, si vos parents sont encore en vie, sont d'excellentes sources de sagesse et d'expérience dans la vie. Des personnes âgées à l'assemblée, souvent eux, ils peuvent jeter une autre lumière sur des situations qui se présentent. Le ministère est là aussi, nous sommes prêts à vous conseiller à partir des Écritures. Si vous avez besoin d'aide ou voulez entendre notre son de cloche, qu'est-ce que la Bible pourrait me dire à propos de tel ou tel sujet? Ça, c'est une chose qui se faisait beaucoup dans le passé, et je peux vous dire que ça ne se passe pas très souvent aujourd'hui. Pas très très souvent, ça pourrait être plus souvent. Il y a des gens qui demandent conseil, mais il y en a beaucoup qui ne demandent pratiquement jamais. Je ne dis pas que vous devez être toutes les semaines en train de demander à votre pasteur, votre ministre local, des conseils. Mais quand il y a des décisions importantes dans la vie, ou quand vous voulez entendre un autre point de vue, peut-être qu'il y ait notre Père Dieu, comme on dit en anglais, je voudrais avoir un autre Père Dieu sur la question, eh bien, il y a des personnes à qui nous pouvons demander. Surtout des personnes qui connaissent la parole de Dieu et qui vont nous conseiller dans le cadre de la parole de Dieu. Ça, c'est une chose qui est très importante également. Donc, troisième chose que la Bible nous dit, demandez conseil, cherchez conseil auprès de gens sages. Dans une multitude de conseillers, il y a une certaine sécurité. Demandez l'avis d'autres personnes qui ont de l'expérience et qui peuvent nous éclairer. Et la quatrième et dernière clé que nous allons voir ensemble aujourd'hui, c'est de demander dans la prière à Dieu de nous montrer sa volonté. De nous montrer, peut-être en nous faisant voir quelque chose dans sa parole, ou peut-être en ouvrant les bonnes portes dans la vie et en fermant les portes par lesquelles nous ne devrions pas passer. Ça, c'est une chose, frères et sœurs, que nous pouvons prier et que, je vous avoue, je prie souvent quand il est question de décisions importantes dans la vie. Je demande à Dieu, je dis, Père, je demande s'il te plaît de m'ouvrir la bonne porte et de fermer à clé les mauvaises portes pour que, même si je trompe et j'essaie de passer par cette porte-là, la porte ne s'ouvrira pas devant moi. Et je peux penser à des exemples dans ma vie où je suis convaincu que Dieu l'a fait. Il a ouvert la bonne porte et il a fermé les autres, ou même quand j'essayais d'ouvrir cette porte, elle ne s'ouvrait pas. Et Dieu est bien capable de faire cela. Et la Bible parle souvent de portes ouvertes qui nous montrent par où nous devons aller. 1 Corinthiens chapitre 16, par exemple. 1 Corinthiens chapitre 16. En Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Paul dit au verset 8, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Paul pouvait reconnaître par les circonstances de la vie qu'il devait rester là plus longtemps. Les circonstances lui ont montré que la porte était ouverte pour son ministère, et que Dieu allait appeler d'autres personnes. Il avait une mission importante à accomplir là à Éphèse. Et Dieu a ouvert cette porte. Et parfois, les portes s'ouvrent, parfois, les portes se ferment. Et nous pouvons profiter de cela en demandant à Dieu de nous montrer, par les circonstances, ce que nous devrions faire, et aussi nous montrer ce que nous ne devrions pas faire. Un ami à moi que je connais bien, qui, quand il était plus jeune, fréquentait une certaine jeune demoiselle, était assez épris d'elle, et il avait l'intention d'aller plus loin et peut-être de viser le mariage. Et il le poursuivait, il essayait de passer par cette porte, on va dire. Mais il avait prié aussi à Dieu d'ouvrir les bonnes portes, fermer les mauvaises portes, et indépendamment de sa volonté, la porte s'est fermée, et cette jeune fille, en fait, trouvait chaussures à son pied ailleurs. Et mon ami était assez déçu, ça lui a fait beaucoup de peine pendant un certain temps. Mais après, il m'a dit, en voyant le passage du temps, en voyant comment les choses se sont développées, en fait, il a trouvé une épouse qui était beaucoup mieux pour lui, beaucoup meilleure pour lui que la première jeune femme aurait été. Et il est très reconnaissant maintenant que Dieu ait fermé cette porte-là, même si, sur le moment, il était très déçu et ça lui a causé beaucoup de peine. 2 Corinthiens, maintenant, chapitre 2, verset 12. Dieu peut ouvrir les bonnes portes et fermer les portes par lesquelles nous ne devrions pas passer. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 12. « Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. La porte était ouverte. Il y avait beaucoup de progrès qui pouvaient être accomplis. Et nous pourrions prendre d'autres exemples également. Prenons juste un dernier exemple dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. C'est probablement un des passages les plus connus à propos de portes ouvertes, Apocalypse chapitre 3, verset 8, en parlant à l'église de Philadelphie. Jésus dit, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Dieu a dit à cette église-là que la porte était ouverte pour accomplir l'œuvre de Dieu, et personne ne pourrait le fermer. Dieu peut faire des choses comme cela pour nous. Si vous avez une décision importante à prendre, eh bien, je vous encourage à prier Dieu de vous ouvrir la bonne porte et de fermer toutes les portes par lesquelles vous ne devriez pas passer et de les fermer à clé, pour que même si vous vous y trompiez, la porte ne va pas s'ouvrir. Ça, c'est le quatrième conseil que la Bible nous souligne, que nous pouvons demander à Dieu d'ouvrir les bonnes portes et de fermer les mauvaises. Prenons un dernier passage maintenant dans Ésaïe chapitre 66. Ésaïe 66. Dieu veut nous faire profiter de sa sagesse. Il veut que nous nous laissions guider par lui. Et il répondra à nos demandes, si nous sommes ouverts à cela et si nous le cherchons. Ésaïe 66, verset 1. « Ainsi par l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. » Celui qui craint ma parole. Dieu porte ses regards vers celui qui cherche à connaître et à se soumettre aux instructions et à la sagesse de Dieu. Dieu regarde ceux qui tremblent devant sa parole, c'est-à-dire qui cherchent sa volonté, qui cherchent à être guidés par sa volonté. Quand nous voulons être guidés par Dieu, Dieu nous regarde et il aplanit nos sentiers. À notre tour, frères et sœurs, nous devons, comme ceux qui nous ont précédés dans la foi, rejeter l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et suivre la voie de l'obéissance à Dieu, en cherchant sa volonté et non pas la nôtre. À nous de nous laisser guider par Dieu.